Bonjour et bienvenue sur En Amour, ton émission de podcast dans laquelle nous explorons les méandres des relations amoureuses, pour y ajouter une pointe de conscience, de bienveillance et bien sûr d'amour. Moi c'est Nicolas, je suis ton hôte, je suis aussi l'auteur du blog grainesdecoeur.fr et aujourd'hui c'est l'épisode 169 que j'ai intitulé Les différentes voies que la sexualité peut offrir pour l'épanouissement de ton couple. Je reprends le micro après une petite pause estivale. Ça fait 2 ou 3 semaines que j'ai même oublié, tu vois, que j'ai pas fait d'épisode. C'est un plaisir d'être là. Ça m'a fait en même temps beaucoup de bien d'avoir cette petite pause. On a passé un mois d'août, famille, amis, Tour de France entre guillemets, avec bien sûr des moments super agréables et des galères de voitures qui tombent en panne et ce genre de choses. Mais voilà, tout va bien. Je suis rentré, je suis ressourcé et très content d'être là. Et je reprends le micro pour te parler de sexualité avec un angle peut-être un peu différent. En même temps, il y a des choses qui se recoupent avec ce que j'ai amené les autres fois sur les autres épisodes où je te parle de sexualité. Et en même temps, il y a du nouveau. Parce qu'en fait, une réalisation, je pense pas, mais une pensée qui m'est venue, je réfléchissais à ce que, de quoi j'allais te parler quoi, quand je revenais, entre guillemets, à la rentrée, quoi. On est un peu avant la rentrée, mais en revenant de ces vacances, et il y a plusieurs choses qui me tenaient à cœur d'amener. Et je me suis dit, bah, tiens, si je parlais de la sexualité comme ça, parce qu'on... En regardant un peu mon parcours, en discutant un peu avec d'autres personnes ces derniers mois, je me rends compte que il y a, on va avoir tendance à découvrir notre sexualité, on va dire, je mets entre guillemets, à notre sexualité, peut-être naturellement, ce qu'on aime, ce qu'on aime moins. Alors bien sûr, ça va dépendre un peu des partenaires qu'on rencontre, des conversations qu'on a avec nos proches, pour les plus curieux et curieuses, des lectures et des écoutes que tu as sur le sujet. Mais des fois, on n'a pas une carte très, très précise de ce qui est possible en fait dans la sexualité. Donc voilà, avec un nouveau partenaire, une nouvelle partenaire, peut-être que tu vas découvrir d'autres pratiques, une manière différente de faire l'amour, etc. Mais des fois, tu comprends pas tout, quoi. Tu connais pas tout, entre guillemets. Et il y a plein de choses à expérimenter, il y a plein de coquineries, de cochonneries, on va dire, de manière d'avoir du plaisir, de vivre du plaisir dans le couple, dans la sexualité, qui sont encore... qui sont peut-être qui existent, qui sont déjà cartographiés entre guillemets. Il y a des livres qui en parlent. Tu vas pouvoir trouver des contenus. Tu vas pouvoir peut-être même aller faire des formations autour de ça. Il y a pas mal de choses hein, qui se passent aujourd'hui dans un monde, on va dire, sexuellement plus libéré. Il y a pas mal de stages qui vont aider à guérir des blessures, des traumas, qui vont permettre de découvrir d'autres pratiques dans un cadre sain et sécurisé. Hein. Je te parle pas de choses bizarres ou étranges ou de la prostitution. Je te parle vraiment de choses qui sont dans un cadre professionnel, éthique, quoi. Il y a pas mal de choses. Donc, soit tes lectures, des écoutes, des stages, il y a pas mal d'opportunités de rencontrer des gens aussi aujourd'hui avec Internet, dans des clubs, dans ce genre de choses où tu vas pouvoir vivre différentes expériences sexuelles. Et quand t'es pas très curieux sur la sexualité, ben, tu vas passer à côté de plein de choses. Et il y a sûrement dans ces choses, et je prends un peu la métaphore du bon plat, tu vois, quand tu voyages dans un nouveau pays. Ben, peut-être qu'il y a des plats que tu découvres et que ben, si tu n'avais jamais voyagé, tu n'aurais jamais pensé que ça existait, tu n'aurais jamais voulu manger ça parce que tu savais pas que ça existait. Je sais pas, si tu n'es pas allé en Thaïlande ou tu n'as pas mangé dans un restaurant thaï et que tu n'as pas mangé un pad thaï, ben, ouais, tu sais pas que c'est délicieux ce truc-là et peut-être que tu vas pouvoir le cuisiner à la maison, peut-être que tu vas trouver un restaurant thaï près chez toi, tu vas vouloir le manger de temps en temps. Alors tu vas peut-être pas devenir quelqu'un qui mange du pad thaï tous les jours, mais peut-être que dans ta nutrition, dans ta manière, dans ton relation... de plaisir à la nourriture, peut-être que de temps en temps, le pad thaï, ça en fera partie, ou un autre plat, peu importe, un bon cassoulet, ou j'en sais rien, imagine que t'es pas français, tu viens de je sais pas quel pays, tu connais pas le cassoulet, tu arrives dans le sud de la France, tu manges un vrai cassoulet, bon bah, tu te dis, ah, c'est peut-être cool en fait, tu vois, c'est donc pareil dans la sexualité, il y a des choses que t'as pas goûté, que tu connais pas, tu sais même pas que ça existe, peut-être, et aujourd'hui dans le podcast, on va voir un peu plusieurs voies où, voilà, que tu peux explorer dans la dimension sexuelle. De toi à toi, dans ton couple, si tu es en couple, là, ça peut être des explorations que tu fais si tu es célibataire aussi, il n'y a pas besoin nécessairement d'être en couple pour faire ça, ça peut être aussi des choses qui se font à deux. Juste te dire qu'avant de te parler de ces différentes voies, donc ces chemins, ces différents univers de la sexualité que tu peux découvrir, il n'y en a pas un qui est mieux que l'autre, il y a des choses qui peuvent te plaire ou te déplaire, qui peuvent te dégoûter ou t'exciter, peu importe. C'est une question de goût, c'est une question d'ouverture d'esprit, c'est une question de curiosité et de bien d'autres choses aussi qui vont faire que certaines choses t'attirent ou au contraire te répugnent ou te disent bah non, ça c'est pas du tout pour moi, j'ai essayé, c'est pas du tout pour moi. Et parfois, comme la nourriture dans la sexualité, il faut parfois goûter plusieurs fois le même plat ou fait par un autre chef, assaisonné d'une différente manière pour aimer. Donc il y a des choses des fois qu'on n'aime pas la première fois qu'on essaye parce que c'est pas amené de la bonne manière, c'est pas dans le bon cadre, c'est pas avec la bonne personne et du coup bah, ces choses-là qu'on pourrait éventuellement aimer, on les aime pas. Donc, c'est pas simple, c'est quelque chose d'un peu casse-gueule. La sexualité, c'est quelque chose d'assez délicat parce qu'on peut être blessé émotionnellement, on peut avoir des regrets de ce qu'on fait, etc. Donc, c'est un univers qui est compliqué à naviguer. Donc, c'est aussi pour ça que je voulais te présenter cette liste, ces cinq voies qu'on va voir ensemble, ces cinq mondes à explorer de la sexualité. C'est pas une liste exhaustive de toutes les pratiques sexuelles imaginables, explorables et voilà, du monde. Ça va en couvrir beaucoup. Ça va élargir un peu, ça va permettre de t'en faire découvrir peut-être une, deux ou trois que tu ne connaissais pas, que tu connaissais peu, que tu avais entendu parler vaguement, mais tu n'avais jamais vraiment mis de mots derrière, ou tu connaissais personne qui pouvait t'en parler. Voilà, bon, moi j'ai pas tout fait, j'ai pas tout exploré dans la sexualité, mais c'est quelque chose, tu vois, comme dans le couple, c'est quelque chose sur lequel je suis curieux, donc j'ai lu, je me suis renseigné, et parfois j'ai expérimenté, et du coup voilà, je vais pas te parler que de ce que j'ai vécu parce que j'ai pas nécessairement tout fait dans ce qu'on va voir ensemble, mais je me suis assez documenté, j'étais assez curieux pour au moins voilà, en parler à des gens qui le vivent, en parler dans des cafés sexo, dans des endroits en ligne, etc., pour voilà, comprendre ces choses-là et commencer à les explorer un peu, même sans les avoir pratiquées, même sans les avoir vécues. Et j'espère que ça va t'aider aussi un peu à les découvrir, en fait, tout simplement, et à voir ce qui te semble intéressant, ce qui te semble moins intéressant. Peut-être qu'avec une certaine personne, dans un certain contexte, tu voudras expérimenter ça et que tu n'en prennes qu'une de ces cinq voies ou les cinq. Voilà, c'est peu importe en fait. Encore une fois, il n'y en a pas une qui est mieux que l'autre, il n'y en a pas une qui est plus importante que l'autre, il n'y en a pas une qui te permettra, enfin voilà, qui te permettra, je sais pas, d'être plus heureux ou plus épanoui en couple qu'une autre. L'important, c'est que tu sois vrai avec toi, que tu sois aligné avec qui tu es, avec tes désirs, avec tes fantasmes, avec tes envies, bien sûr en tenant compte de ton ou ta partenaire si tu es en couple, et comment tu jongles avec tout ça, et comment vous êtes deux êtres au moins dans cette relation, comment avec vos envies, vos désirs, vos fantasmes, vos blessures, vos capacités, vous arrivez à créer une sexualité qui va être nourrissante, épanouissante, qui va faire du bien à tout le monde. Et voilà, donc c'est un peu le... Voilà, comment on va faire ce podcast, comment on va le naviguer ensemble, explorer ces cinq univers, ces cinq voies qu'on peut explorer de la sexualité. Et je vais commencer par le plus évident, par ce que j'ai appelé, on va dire, la sexualité ordinaire, la sexualité classique. En anglais, on dirait vanilla, donc il y a un goût de vanille, donc il y a un peu le goût de base, quoi, la sexualité vanille. Tu la nommeras comme juste te semble, parce que peut-être que c'est ta sexualité à toi et qu'elle est très bien, hein, et encore une fois, il n'y en a pas une mieux que l'autre. Mais pour essayer de la décrire avec un mot, voilà, c'est les trois qui me sont venus, mais si tu as besoin de la nommer autrement, il n'y a pas de problème. On va dire que c'est celle qui vient peut-être le plus naturellement dans notre société, dans l'époque où on vit, c'est celle qui est, voilà, que tu vas voir dans les films, dans les magazines, etc., le plus couramment, quoi, c'est celle-là qui est là. Donc c'est la plus courante que beaucoup de couples vivent. On fait l'amour, on baise, on a un mélange des deux, ça peut être un peu l'un, un peu l'autre, un peu les deux, beaucoup l'un aussi. On va dire qu'il n'y a peut-être pas nécessairement beaucoup de techniques utilisées. Bien sûr, tu peux avoir des techniques que tu as apprises pour les baiser avec les mains, avec d'autres choses, mais voilà, on n'est pas dans quelque chose de très précis, de très technique. Peut-être pas trop d'objets qui sont utilisés, des sextoys et autres. Voilà, y a sûrement une recherche de plaisir et d'orgasme en fait dans cette sexualité, sûrement de plaisir et d'orgasme mutuel. Je te le souhaite, on est quand même dans un monde où il y a de plus en plus cette prise de conscience que l'orgasme, c'est pas que l'homme qui peut l'avoir, et ce partage-là, entre guillemets, d'orgasme et de plaisir qui est aussi de plus en plus avec la femme. Donc c'est voilà, j'espère que c'est quelque chose que tu vis et qui est agréable pour toi. On va dire que cette sexualité, elle ne s'inscrit pas dans un contexte plus grand, et ça fera plus de sens quand je te parlerai des autres, peut-être. On est en couple, on s'aime, on a du désir, on aime faire l'amour, on fait l'amour, entre guillemets, c'est un peu ça, quoi. Bien sûr, la manière de faire l'amour, la fréquence, l'intensité, la manière de faire les préliminaires, la manière de faire le pendant, la durée, tout peut fortement varier avec tout ça, quoi. Et il y aura plaisir, connexion, orgasme, sûrement dans cette sexualité-là. Peut-être qu'il y aura un peu plus, mais... Voilà, c'est la sexualité vanille, classique, ordinaire. C'est comme ça que j'essaie de la décrire du mieux possible, sans te donner, voilà, c'est peut-être du missionnaire, de la levrette, des choses comme ça, mais sans aller dans des choses trop techniques, quoi. On n'est pas des personnes qui recherchent à faire le Kama Sutra, par exemple, ce genre de choses dans cette sexualité-là. On est plus dans le, voilà, on fait l'amour, quoi. Avec ce qu'on connaît, avec nos expériences passées, avec peut-être quelques recherches qu'on a fait quand même. On s'est quand même questionné sur deux, trois trucs, les conversations qu'on a eues avec nos proches ou avec des amis, avec des copains, des copines, ce genre de choses. Et on utilise bien sûr notre expérience, notre passé, ce qu'on a vu autour de nous pour bien sûr explorer. Et des fois, il y a des pratiques un peu osées dans cette sexualité qui est plus vanille et ordinaire. Et tu vas voir qu'elle va être assez en contraste avec les quatre autres qu'on va voir. Peut-être ça fera plus de sens pourquoi je l'ai aussi mis en premier et pourquoi je l'ai décrite ainsi. Donc une autre voie qui est peut-être un peu plus à la mode ces temps-ci, que tu peux explorer, un univers que tu peux explorer, c'est l'univers du slow sex. Donc tu verras qu'il y a des livres qui ont été écrits sur le... Donc slow, en anglais, c'est lent, c'est ralenti, c'est cette idée de lenteur, quoi. Donc c'est l'amour lent, faire l'amour de manière lente, de manière au ralenti, entre guillemets. Donc tu vas trouver des livres, des podcasts, des bouquins, enfin des vidéos, pardon, qui parlent plus en profondeur du slow sex, si tu as besoin, si tu es curieux, mais c'est vraiment ralentir quand tu fais l'amour. Et si je devais résumer, te parler un peu du slow sex, moi, la première fois que j'en ai entendu parler, c'était un podcast, donc c'est quelque chose, j'avais entendu ce terme-là dans plusieurs émissions, dans trucs, mais des gens qui n'en parlaient pas beaucoup en détail, donc j'ai trouvé un podcast en anglais, j'ai oublié le nom, ça fait des années maintenant, qui parlait vraiment du slow sex, et j'avais écouté leur podcast de, entre guillemets, où ils expliquaient ce que c'était, et je me souviens de l'autre, alors j'ai oublié son prénom aussi, je me souviens plus ni du nom du podcast, c'était en anglais, ni de l'autre, mais il disait, ben, en gros, ça peut être, le slow sex, ça pourrait être ralentir, puis ralentir encore. Puis, si voilà, tu as déjà ralenti deux fois, bah, tu ralentis encore un peu. Et si tu peux, bah, tu ralentis de nouveau. Et tu continues de ralentir. Je ne sais plus combien de fois il a dit le mot ralentir. 5-10 fois, quelque chose comme ça. Au moins ça. Donc c'est vraiment cette idée de cette invitation à la lenteur, à se connecter à soi, à se connecter à l'autre, en ralentissant l'acte charnel, que ce soit les préliminaires, que ce soit les moments de pénétration. Quelle que soit la pénétration, que ce soit avec un objet ou sans objet, mais de vraiment de ralentir, de faire les choses en douceur, de faire les choses. Souvent, hein, dans la sexualité plus conventionnelle, c'est l'excitation qui va pousser à aller vers le plus intense, le plus vite. Si tu regardes, si tu penses au film porno, c'est vraiment ça, quoi. C'est de l'excitation pure et dure, c'est plus vite, plus fort, plus intense. Et là, on irait presque à l'inverse de ça. C'est presque irait à contre-courant de ça et aller ralentir, observer ce qui se passe chez toi, ce qui se passe chez l'autre, ce qui se passe pour vous. Ça va être un moment qui va permettre de nourrir quoi vraiment des parties de nous qui, dans une sexualité plus ordinaire, plus rapide, plus intense, plus concentrée sur l'orgasme, qui vont peut-être pas être nourries en fait. Il y a une dimension de la connexion qui est peut-être plus importante. Donc c'est une sexualité en pleine conscience, une sorte de méditation du faire l'amour par exemple. Donc on n'est pas dans une course à l'orgasme. Parfois, dans le slow sex, on recherche moins l'orgasme ou pas l'orgasme, on l'évite ou on le délaie. Voilà, ça dépend un peu de qui tu lis, de ce que tu lis dessus. Autant pour l'homme que la femme. Ça n'empêche pas d'en avoir un. C'est pas que l'orgasme, c'est mal. Je ne me sens pas que ce soit spécialement jugé dans le slow sex, l'orgasme, du moins dans mes recherches que j'ai fait. L'invitation, en fait, est à comprendre que je t'avais fait un épisode hein, sur un bouquin qui fait la différence entre orgasme et jouissance. Donc l'orgasme, que ce soit chez l'homme et la femme, c'est vraiment ce pic et qui va couper l'envie après. Donc quand tu as un orgasme, que tu sois homme ou femme, que c'est souvent un orgasme clitoridien chez les femmes, c'est une sorte d'orgasme masturbatoire, quoi, souvent chez les femmes, et chez l'homme aussi, hein, que ce soit à la main ou à l'intérieur d'un vagin, souvent ce qui se passe, quoi. Donc il y a l'éjaculation chez l'homme ou un orgasme chez la femme, et il y a ce moment vraiment intense, quelques secondes, 3, 4, 5 secondes, et après, il y a vraiment, même que ce soit homme ou femme, on peut avoir envie de dormir, on n'a plus envie de faire l'amour, c'est vraiment, il y a ce pic, quoi. Il y a ce pic, cette intensité. Et après, on n'a plus envie, ça coupe. Et la différence qu'il fait dans ce livre, c'est la jouissance, elle peut être plus intense ou moins intense, peu importe, mais elle va durer dans le temps, elle va souvent durer plus de 5 secondes, plus de 3 secondes, et il va y avoir, on va pas perdre l'envie de faire l'amour en fait. Et le slow sex, il peut amener à plus de jouissance et peut-être moins d'orgasme ou moins de recherche d'orgasme parce que ben, on a des phases de jouissance qui sont vraiment plus intéressantes, peut-être d'une certaine manière, quoi, parce qu'on va vivre plus de plaisir, plus souvent du plaisir. Et ça peut durer des heures en fait, ça peut durer une journée avec des pauses bien sûr, hein. Tu vas pas non plus passer, mais il y a des gens qui passent une journée au lit, ou du moins 10 heures, 12 heures, peu importe, avec des vagues de jouissance très intenses quoi. Et ça peut amener à ça le slow sex, ça peut être l'intérêt du slow sex, c'est si une sexualité plus rapide, plus mécanique, moins connectée te correspond pas, et que tu as goûté ces moments de jouissance qui ne sont pas des moments d'orgasme, mais tu te dis bah, qu'est-ce que ce serait si avec un peu d'entraînement, si avec un peu de pratique, si avec un ou une partenaire qui a envie de vivre ça, ça pourrait durer, ça pourrait faire des vagues et des vagues et des vagues de jouissance pendant des heures en fait, ou pendant 1 heure ou 10 minutes, ou peu importe le temps que tu as devant toi, mais voilà, ça peut vraiment démultiplier le plaisir et vivre une expérience qui est moins orgasmique, on va dire, concentrée sur l'orgasme, l'éjaculation, ou cette jouissance si intense, même chez la femme, qui fait que tu n'as plus envie de faire l'amour après. et d'aller vers la jouissance qui, elle, va être, voilà, va être durée, va venir et repartir. Et peut-être si tu connais des techniques comme le edging, qui est vraiment aller à ton 8 sur 10 ou ton 9 sur 10 de l'éjaculation chez l'homme ou de l'orgasme chez la femme, aussi équivalent, tu vas t'arrêter, tu vas faire retomber la vague, tu vas respirer, tu vas peut-être prendre une pause, tu vas faire autre chose, tu vas juste rester là sur le lit à rien faire et tu vas repartir après. Tu vas voir que les vagues de plaisir sont souvent de plus en plus intenses quand tu fais du edging, quoi. Donc ça peut être aussi une manière d'assembler une technique, on va dire, qui peut être pour la masturbation, qui peut être pour le plaisir à deux, et profiter de ces vagues-là, tout dans la lenteur et vraiment en ralentissant. Donc ça, c'était une deuxième voie, une deuxième manière d'explorer la sexualité, qui est le slow sex. Le sexe en lenteur, le sexe lent, le sexe au ralenti. Tu vas trouver plein de contenu, il y a même vraiment des bouquins, il y a des gens qui ont vraiment pensé ça et qui le vivent, hein, tout simplement, donc qui écrivent beaucoup de choses dessus. Donc si tu as envie de creuser, si ça te rend curieuse, n'hésite pas à creuser du côté de la sexualité, du slow sex. Ensuite, il y a des retraites aussi, hein, tu peux faire des stages d'une semaine, ça, c'est des stages souvent à 1000 euros par personne, etc. Comme c'est une semaine, ça coûte un peu d'argent, mais il y a des stages de slow sex où tu peux apprendre des pratiques pour... entre guillemets, désapprendre cette course à l'excitation et à l'orgasme qu'on a tendance à vivre dans une sexualité plus ordinaire et désapprendre ça avec des pratiques et des exercices particuliers pour avoir une phase de transition où tu sors d'une sexualité ordinaire et tu vas vers une sexualité de slow sex. C'est souvent ce qui est nécessaire dans une sexualité pour transformer un peu sa sexualité. Il va falloir passer par ces phases de transition pour désapprendre un peu ce qu'on avait appris, les automatismes de l'excitation, de suivre son excitation, etc. Moi je suis en train de lire un livre qui s'appelle Faire l'amour de manière divine, qui est un peu différent du slow sex mais qui va s'approcher de ça entre guillemets, et t'as un livre qui s'appelle Slow Sex tout simplement aussi, et ils vont pouvoir t'aider à toucher à ces dimensions là, comprendre un peu ces différentes manières de vivre la sexualité, des exercices pour faire autrement et pour apprendre entre guillemets, entraîner ton corps, tes pensées, ta manière de voir les choses pour accéder à une sexualité un peu différente. Ensuite je te propose donc un troisième univers à explorer de la sexualité, qui va être une sexualité dite sacrée ou peut-être tantrique. Ça peut ressembler fortement à du slow sex. Il y a souvent un peu plus que du slow sex. Il y a une dimension spirituelle, il y a une dimension de connexion, peut-être un peu plus poussée, on va dire, ou un peu plus présent dans ce partage, dans cet acte d'amour, dans cet acte charnel. Si tu vas vers le tantra, tu vas rajouter peut-être des rituels, des préparatifs qui vont d'inspiration tantrique, tu vas rajouter peut-être des exercices pour faire circuler les énergies, des exercices notamment de respiration. Bien sûr, ça va souvent passer par ralentir et faire l'amour en conscience, donc c'est là où il y a un gros parallèle entre le slow sex et l'amour tantrique, ou l'amour sacré, ou la sexualité sacrée. Des fois, les gens ont du mal un peu à faire la différence entre les deux, et c'est très proche, hein. On va dire que le slow sex, des fois... Ça dépend de qui tu le pratiques, ça dépend de qui tu l'apprends. Il y a peut-être une dimension spirituelle qui est un peu moins importante, mais ça fait partie. Il y a cette connexion à l'autre dans le slow sex, donc c'est vraiment important. Donc il y a quand même une dimension spirituelle qui est là, bien sûr. Dans une sexualité peut-être plus sacrée, plus tantrique, on va mettre un accent peut-être sur l'énergie qui circule entre les corps. Donc à travers les rituels, la manière de faire, les exercices de respiration, on va se connecter à ça, on va le ressentir plus ou moins selon ta sensibilité à l'énergie, selon ta sensibilité au subtil. Tu vas pouvoir être capable de toucher ça, le ressentir pleinement et fortement, ou pas le sentir du tout. Et peut-être qu'avec le temps, avec la pratique, avec la répétition, tu vas te rendre compte que ah ouais, il y a quelque chose qui circule entre nous, il y a quelque chose qui, même si on fait des exercices où on n'est pas en contact, on n'est pas en pénétration, peut-être qu'il y a soit les corps sont en contact au niveau des périnées par exemple, si tu te mets en ciseaux, ce genre de choses, tu vas te rendre compte que même s'il y a juste, tu es allongé, tu te mets en ciseau, il n'y a que les périnées qui sont en contact, avec sous-vêtements ou même sans sous-vêtements, peu importe, tu verras qu'il y a des choses qui se passent dans les corps qui circulent, que tu peux ressentir en fait. Donc ça peut paraître abstrait un peu, mais c'est très concret quand tu commences à ressentir ces choses-là, quand tu vois ce qui se passe dans ton corps, quand tu vois ce qui se passe dans le corps de ta partenaire, les spasmes, les cris, les choses qui viennent se mettre là, les sensations de désir, de plaisir qui peuvent arriver quand tu fais ces pratiques-là, tu verras qu'en fait, ça, c'est très très concret, et puis tu le ressens clairement, et tu vois que l'autre le ressent clairement, donc ça peut être quelque chose qui est très intéressant. On va toucher au subtil, aux choses un peu moins palpables, on va dire. C'est peut-être une sexualité qui va nous inviter à toucher au divin, que ce soit à l'intérieur de toi, de voir le divin en toi, de voir le divin dans ton ou ta partenaire, et peut-être le divin qui est plus grand que toi. Alors certains l'appelleront Dieu, appelleront nature, appelleront vie, appelleront Shiva Shakti si tu vas dans le tantra ou autre chose. Peu importe en fait quel mot tu vas mettre derrière ça, mais ça peut, la sexualité peut être une porte vers la connexion au plus grand que nous. Ça peut être une balade en nature qui l'est pour toi, ça peut être à travers, je sais pas, d'autres choses, mais voilà, la sexualité permet ça et tu verras qu'il y a des livres qui peuvent te guider, il y a des stages de tantra notamment qui peuvent te guider. Si tu vas vers du néo-tantra, tu auras plus des choses autour de la circulation d'énergie, de la respiration et de la sexualité, et ça peut parfois ressembler à du slow sex. Bien que ce soit un peu différent, et si tu vas vers un tantra, on va dire traditionnel, c'est un grand mot, je ne sais pas s'il y en a beaucoup en Occident du tantra traditionnel, mais qui va avoir un côté souvent, qui va ne pas négliger le côté sexuel que le tantra peut amener, mais qui va aussi toucher des dimensions plus spirituelles, voilà, cette connexion au divin, au plus grand que toi. Donc là aussi, hein, comme dans le slow sex, on va peut-être aller vers un détachement de la recherche, de rechercher l'orgasme à tout prix, on va peut-être se concentrer plus sur le faire l'amour en conscience, en présence. Ce qui est là pour toi, ce qui est là pour l'autre, ce qui est là pour vous, avec des accélérations, des ralentissements, des arrêts, d'accueil des émotions, des cris, des mots, des partages. Moi, je sais, quand le tantra est arrivé dans ma vie, ça a pas mal changé, ça, au niveau de la sexualité. C'est-à-dire que ça m'a aidé un peu à sortir du rôle de l'homme dans la sexualité que je percevais que je devais avoir, quoi. Ce rôle de performance, ce rôle de donneur d'orgasme, ce rôle d'homme qui sait s'y prendre avec certaines techniques, certaines manières, durer une certaine période, tu vois, y a un peu ces pressions-là, quoi, qui sont là pour l'homme, et il y en a d'autres pour la femme, et du coup, ça permet de dépasser un peu tout ça, puis de te dire, bah, en fait, si tu as des émotions, et que tu es un mec, et que c'est des pleurs qui viennent pendant l'amour, bah, il n'y a pas que le tantra qui permet ça, il y a une relation de qualité avec ton ou ta partenaire aussi, hein. T'as pas besoin de faire du tantra pour ça. Peut-être que le slow sex y permettrait ça aussi. Mais cette idée d'accueillir le présent, d'accueillir le réel de ce qui est là, et oui, ça peut passer par une pause, par une panne, entre guillemets, et qui peut être juste parce que tu as lié la qualité de ton érection, entre guillemets, à ton excitation, et que si tu vas vers une sexualité plus douce, ben, il y aura moins d'excitation. Et il va falloir que tu désapprennes à avoir une érection, si tu es un mec ou si tu es un homme, pour d'avoir une érection que d'excitation. Il va falloir trouver d'autres manières de se connecter à ton désir, à cette chose-là. Et tu verras que tu peux avoir des érections autrement, en fait, par exemple. Donc, je te donne juste des petites choses, des petites pistes qui peuvent être intéressantes, qui peuvent te donner peut-être un élan d'aller explorer ça si jamais tu as des problèmes d'érection, si jamais ton érection elle est liée à ton niveau d'excitation. Bah, il y a des personnes qui ont trouvé d'autres chemins, qui ont créé d'autres voies et qui se pratiquent, qui se lisent. Le livre que je suis en train de lire, Faire l'amour de manière divine, il parle notamment de ça. Il explique pourquoi et comment faire avec ça. Tu vois, donc c'est peut-être un livre qui peut t'intéresser. Donc il y a d'autres manières de faire, d'autres manières de vivre cette sexualité et ça peut être intéressant si voilà que si que ce soit ta relation au divin, que ce soit ta relation au subtil, que ce soit ton envie d'avoir des exercices, des pratiques qui permettent de voir le divin en l'autre, en ton partenaire, le dieu, la déesse qui est dans ton partenaire, bien sûr en toi aussi, ce genre de choses-là, bah, le tantra, ça peut être bien, aller vers une sexualité dite sacrée, ça peut être bien, et ça peut être intéressant de creuser, et voilà, de partir sur une soirée découverte, nous on anime du tantra avec ma compagne, alors pas nécessairement autour de la sexualité, il y a bien d'autres choses dans le tantra, et sur des soirées découvertes, justement, on va probablement pas animer autour de la sexualité, parce que c'est aussi important de désapprendre, hein, des choses, de désexualiser notre relation à l'autre, notre relation à nous, notre relation à notre désir, etc., pour pouvoir après peut-être accéder à d'autres choses. Donc on fait ça dans le 74, en Haute-Savoie. Bien sûr, il y a des stages un peu partout, il y a des soirées découvertes un peu partout et qui seront pas que au niveau de la sexualité. En quatrième, la quatrième sexualité de laquelle je voulais te parler, peut-être te présenter, ou cet univers à explorer, cette voie à explorer, ce serait une sexualité que j'ai appelée coquine, qui pourrait ressembler au schéma érotique dit pervers ou coquin, pour ceux qui sont à l'aise avec les schémas érotiques qui en ont déjà entendu parler. Donc je mets dans cette catégorie ce qui va au-delà de la sexualité ordinaire et qui diffère, bien sûr, du slow sex et du sexe tantrique ou de la sexualité sacrée. Donc c'est peut-être un peu plus exploratoire, un peu plus osé, un peu plus intense. Ça va dépendre vraiment des pratiques et à quel point tu t'explores cette sexualité, mais ça peut être du BDSM, comme de la soumission, de la domination, du shibari, du bondage, ce genre de choses, quoi. Ça peut être des jeux de rôle, avec certains fantasmes érotiques qui, on va dire, qui peuvent être créatifs et originaux. Alors, on va utiliser souvent plus de. Souvent, parfois, pas souvent, il n'y a pas besoin que ce soit souvent, mais plus de jouets, plus de sextoys, peut-être des fouets, des menottes, des cordes, et ce genre de choses, qu'on va jouer avec des costumes. notamment pour les jeux de rôle, mais pas que. Donc, c'est un univers hein, des fois qu'on diminue à la soumission, à la domination, à ce genre de trucs. Et il y a vraiment, si tu fais des recherches sur c'est quoi le BDSM, c'est quoi le bondage, et tu demandes à ChatGPT, tu retrouves un article qui te liste ça, tu verras qu'il y a des tas de choses en fait là-dedans. Hein. Il y a du fantasme, il y a du fétiche, il y a des choses plus ou moins hardcore, on va dire, plus ou moins gênantes pour certaines personnes. Et du coup, c'est un peu le problème de cette sexualité, c'est que des fois, on en a honte, hein, nos pensées, nos fantasmes, des choses qui touchent à cette sexualité-là, on en a honte parce que bah, c'est pas une sexualité ordinaire, quoi. Des fois, cette sexualité, elle est dépeinte comme mauvaise, ou comme sale, ou comme pervers, ou comme tordu. Il y a des choses comme ça. Et tu peux te rendre compte, en fait, si tu cherches un peu, que, bah, en fait, pas tant que ça. Il y a des tas de gens, vraiment des tas de gens qui pratiquent. Il y a des clubs pour ça. Tu peux faire des rencontres sur des sites, sur des apps. Tu peux rencontrer des gens. Et donc, du coup, si une sexualité qui te questionne, bah, il y a de quoi explorer, en fait. Hein. Et en sécurité. C'est une sexualité qui parfois, dans certaines pratiques, peut y avoir de la douleur. On va jouer avec la douleur, on va jouer avec la fessée, on va jouer avec des fouets sur certaines parties du corps. Donc on peut avoir la peau rouge, il y a des gens qui se fouettent jusqu'à saigner. Hein, donc il y a un risque de se blesser, entre guillemets. Donc c'est aussi une sexualité avec un accent sur le consentement, sur la communication, sur définir des règles clairement établies. Avant de passer à l'acte, avant de faire certaines choses, avant de faire certaines pratiques, donc il peut y avoir des safe words pour, tu sais, des mots de sécurité, pour, voilà, si la personne dit ce mot-là, on arrête tout, quoi. On sort du jeu de rôle, on sort de ce qu'on fait, on sort du jeu dans lequel on est en train de jouer, on arrête tout et on fait un check-in, on regarde, ok, comment c'est pour toi? Est-ce que tu as juste besoin d'une pause? Est-ce que tu as besoin qu'on arrête? Est-ce que c'était trop fort? Est-ce que c'était pas comme tu voulais? C'est aussi, ça peut amener ça aussi, cette sexualité, quoi. Il y a ce côté exploratoire des interdits, exploratoire du refoulé ou des choses qu'on juge dans la sexualité. Il y a aussi cette idée de bah, connaître tes limites, connaître tes besoins et apprendre à les exprimer et à faire ça avec conscience, communication, bienveillance. Et il y a un univers immense à explorer là-dedans. Si tu rencontres des gens qui ont passé 10 ans, 20 ans à explorer ça, à aller en club, etc., et qui te parlent un peu de ce qu'ils ont vécu, de ce qu'ils ont fait, peut-être que c'est lors d'un café sexo, ce genre d'endroit où tu vas pouvoir à cette occasion-là, ou peut-être t'as un ami, quelqu'un dans ton entourage qui dit bah, je vais en club libertin, ou je vais en club BDSM tout le temps, ce genre de truc. Ben, moi, si tu as des curiosités, si tu as des questions, n'hésite pas à leur poser parce que tu verras que c'est pas malsain, c'est pas. Ça peut être ces endroits, c'est aussi en quelque sorte, hein, ces clubs, c'est des temples de la sexualité, c'est-à-dire que bah, la sexualité est honorée là-bas, avec du consentement, avec de la bienveillance, avec. Voilà, donc ça peut être intéressant d'explorer ça si ça te parle, en tout cas, si tu as des questionnements, ce genre de choses-là. Est-ce que tu peux trouver dans cette sexualité-là, explorer ça, bien sûr, dans les autres, hein, dans la sexualité sacrée, dans la sexualité consciente, même parfois dans une sexualité ordinaire, c'est une sorte de libération de ta honte, quoi, de ton lien avec ta sexualité, tes fantasmes, tes envies, tes désirs. Tu vas te rendre compte que tu vas trouver des gens pour qui c'est OK, pour qui ces choses-là sont possibles, pour qui c'est OK. Ils peuvent au moins l'entendre, peut-être pas le partager avec toi, mais ils peuvent l'entendre, ils peuvent le comprendre, parce qu'eux aussi, ils ont ça. Et tu vas peut-être même trouver des personnes avec qui vivre, et ça peut être aussi intéressant c'est pas qu'on ait besoin de satisfaire tous nos fantasmes, et en même temps, bah, peut-être que certains sont importants, peut-être que certains sont libérateurs, peut-être qu'en vivre certains, ça fera du bien. Et enfin, la dernière, peut-être, donc univers à explorer, voie à explorer de la sexualité, ce serait ces relations qui sont non ouvertes, pardon, j'ai mélangé les deux mots, qui sont ouvertes ou non exclusives. Donc là aussi, c'est très large, il y a plein de choses. Ça peut être une relation ouverte, ça peut être faire l'amour à trois ou plus, ça peut être le polyamour, ça peut être l'échangisme, ça peut être le libertinage et toutes les autres formes de sexualité qui vont être non exclusives, qui vont être ouvertes, entre guillemets. Il y a vraiment des manières différentes de vivre ça. Certains couples, alors je vais te prendre pas mal d'exemples ici pour vraiment t'aider à comprendre que tu peux mettre de la nuance dans tout ça. Dans le libertinage, dans l'échangisme, dans le polyamour, dans le faire à l'amour, dans une relation ouverte, il y a plein de manières de s'y prendre et de le faire. Et souvent, on est dans le noir et blanc, on est dans le bah, je suis dans un couple ouvert ou pas, ou je suis dans une relation échangiste ou pas, ou libertine. On veut se mettre dans une case où on imagine que cette case, elle a des règles très strictes. Et oui, parfois, il y en a un peu, mais en même temps, c'est très flexible, quoi. Si tu rencontres des gens qui font ces pratiques-là, tu te rendras compte qu'il peut y avoir beaucoup de flexibilité. Et beaucoup d'ajustements. Donc si tu parles, tu vois, par exemple, tu vois, il y a des couples qui vont tout faire ensemble, que ce soit du libertinage, que ce soit quelque chose à trois, etc. Donc y en a qui vont tout faire ensemble, même si c'est à trois, même si ça implique un autre couple, etc. Alors il y en a qui vont se donner des libertés, par exemple dans une relation ouverte, bah, tu peux avoir des relations sexuelles de ton côté, elle peut avoir ou il peut avoir des relations sexuelles de son côté, et on fait pas tout à trois. Donc tu vois, ne serait-ce que sur des choses aussi peut-être fondamentales et simples, il peut y avoir des différences vraiment importantes. Donc il n'y a pas de règle pour tout le monde, quelle que soit ta pratique, quel que soit tout ce que tu veux explorer là-dedans. Comprends qu'il y a beaucoup de choses que tu peux ajuster. Par exemple, hein, s'autoriser à vivre une expérience à trois une fois. Donc tu es curieux avec ton ou ta chérie, vous dites bah, c'est comment de le faire avec un homme, c'est comment de le faire avec une femme, moi j'ai ce fantasme-là, etc. machin. C'est très différent que de devenir un couple non exclusif ou de faire du libertinage. Tu peux tout à fait avoir une exploration, une curiosité d'une fois, ou de deux fois, ou de trois fois, et en même temps tu restes un couple exclusif, parce que le reste du temps, c'est pas dire qu'il y a pas, s'il y a une fille qui te plaît ou un mec qui te plaît, tu vas pas aller coucher avec, parce que ben non, t'avais cet élan pour cette expérience-là, et puis vous avez décidé de pas nécessairement le reconduire. Donc tu vois, il y a du entre deux, on n'est pas obligé d'être dans le noir et blanc de on ouvre la porte, on ferme la porte, et elle est toujours ouverte, elle est toujours fermée, etc. Il y a vraiment de la flexibilité sur ta manière de vivre ces choses-là, et des périodes d'essai, des essais ou des one-shots, qu'on essaie une fois, on voit si ça nous plaît, on en parle, on digère, on fait le point dans 2-3 mois, t'en es où, est-ce que t'as encore envie, moi j'ai encore envie, moi j'ai plus envie, tu vois. Si je prends le cas de l'échangiste par exemple, tu vas trouver des couples qui vont échanger que pour les préliminaires. Il y a des couples qui vont échanger tout, ou la partie où on va faire les préliminaires ensemble, puis ils vont échanger au moment de la pénétration par exemple, etc. Donc, là, ne serait-ce que sur quelque chose qui peut paraître simple, on échange les partenaires, ben c'est à quel moment tu échanges, quelles sont les pratiques qui sont autorisées, voilà, est-ce que tu fais telle ou telle pratique échangée pour des questions d'IST, pour des questions de peut-être maladie, c'est peut-être MST en français, je ne sais plus, pour des questions de maladie sexuellement transmissible en tout cas, pour des questions de ce que tu es OK de voir ou que l'autre fasse, ou ce que tu es OK de recevoir dans ton corps, ce genre de choses, quoi. Il y a mille raisons d'ajuster ces choses-là, mais au sein d'une soirée où tu vas faire de l'échangisme, par exemple, tu peux avoir des règles et tu vas le discuter avant avec ton ou ta partenaire, tu vas le discuter avec le couple que tu rencontres et tu vas te mettre d'accord sur, OK, nous, on veut échanger pour ça, on veut faire comme ci, comme ça, et voilà. Et après, bien sûr, tu peux changer dans le feu de l'action si jamais le fait d'avoir échangé les préliminaires, ça te donne envie du reste et tu peux toujours faire évoluer, mais déjà, tu vas mettre ton cadre, quoi, pour que tu sois en sécurité, que tu te sentes bien. Si je prends l'exemple du libertinage, bah, il se peut se pratiquer. Il y a des couples où il y a qu'un seul des partenaires qui est libertin. L'autre, il est dans une relation, on va dire, pour lui qui est exclusive. Donc lui ou elle, elle a des relations avec bah, sa partenaire, et l'autre vit une vie libertine. Donc il y a une demi-relation ouverte, entre guillemets. Bien sûr, ça peut être les deux aussi. Et tu peux le faire dans un contexte différent. Tu peux aller en club. Il y a des soirées privées des fois qui sont organisées chez un particulier. Tu peux utiliser des apps de rencontre. Tu peux le faire quand tu vas en voyage seulement, parce que c'est des choses qu'il faut aussi considérer dans ton entourage social. Si tu rencontres ton collègue, tu vas dans des clubs libertins et tu rencontres tes collègues de boulot, comment c'est pour toi? C'est pas possible. Ok, parce que tu es le manager, parce que tu es le directeur, ok, ben, peut-être que tu peux le faire que quand tu es en voyage à l'étranger, tu es loin, tu es à des centaines de kilomètres, ou tu vas en voyage exprès pour ça, parce qu'il y a des endroits, il y a des gens qui vont Cap d'Agde pour ce genre de pratique, tu vois. Il y a ce genre de truc, quoi. Donc tu peux ajuster vraiment ta manière de faire. Je te prends souvent cet exemple de ce couple que j'avais entendu parler dans un podcast d'Esther Perel, une psychologue américaine qui traite avec des couples et de la sexualité et plein de choses comme ça. Et où ils faisaient, alors je sais plus si c'était de l'échangisme ou du libertinage, mais une fois par an, ils prenaient l'avion, ils allaient à Las Vegas, ils passaient leur week-end ou leur semaine à faire leur libertinage ou leur échangisme, ils reprenaient l'avion, et puis c'était un couple exclusif à la maison. Il n'y avait pas d'ouverture, il n'y avait pas de rapport sexuel avec quelqu'un d'autre, il n'y avait pas d'échange, il n'y avait rien d'autre, c'était juste leur week-end à eux. Je trouve ça très créatif, en fait, tu vois, de se dire, bah, ça fait 20 ans, 30 ans qu'on est mariés, c'était leur cas à eux en tout cas, on s'ennuie un peu sexuellement, bah, on ne veut pas nécessairement, pour des raisons qui les regardent, ouvrir la relation, faire des choses dans leur ville, etc. Du coup, bah, ok, Las Vegas, on prend l'avion une fois par an, une semaine par an, peut-être qu'un jour ce sera deux fois par an, peut-être qu'un jour ils arrêteront parce que ça leur a passé, qu'ils ont retrouvé une certaine connexion sexuellement entre eux, etc. Tu vois, mais il y a de l'ajustement, il y a de la créativité, il y a de l'ajustement. Ça, c'est vraiment important pour moi quand je te parle de sexualité. C'est, il n'y en a pas une qui est mieux que l'autre, il y a plein de choses à explorer, il y a plein de choses possibles, et en même temps, ben, voilà, qu'est-ce que tu as envie, quoi. Il y a même des gens qui vont utiliser le libertinage pour vivre quelque chose qui est plus de l'ordre de la sexualité sacrée ou tantrique. Donc ils vont pas nécessairement avoir une pratique sexuelle, avec cette personne-là. Ils vont faire des rituels tantriques, peut-être ça va impliquer de la nudité, peut-être que ça va impliquer des échanges de caresses, des échanges pour honorer l'autre, pour honorer le corps de l'autre, mais peut-être que ça ne va pas aller jusqu'à la pénétration, peut-être que ça va aller jusqu'à la pénétration, peut-être, tu vois, il peut y avoir des pratiques très variées en fait, et tu peux mélanger, on va dire, libertinage dans le sens où, relation ouverte, dans le sens où tu n'es pas exclusif dans une sorte d'intimité, mais cette intimité, elle va être cadrée à des pratiques d'un rituel tantrique, par exemple. Et c'est pas, juste on baisse comme des sauvages, entre guillemets, ou comme des animaux excités, c'est, on va mettre un cadre. Donc, c'est aussi ça, c'est pour ça que je voulais te prendre des exemples un peu plus précis, c'est pour que tu te rendes compte que tu peux mélanger aussi, même si je t'ai présenté, moi, cinq, entre guillemets, voies ou cinq univers à explorer, bah, bien sûr, dans une relation, dans une sexualité ordinaire ou un peu plus traditionnelle, bah, des fois, il va y avoir un peu de sexualité coquine, peut-être on va jouer avec des sextoys, peut-être on va juste mettre des menottes, peut-être qu'on va juste jouer avec un petit fouet tout doux, on va faire des caresses avec ou légèrement fouetter les fesses et on va pas aller très loin. Peut-être qu'on va toucher, on va pimenter un peu cette sexualité qui est principalement classique, ordinaire, avec un tout petit peu de ça. Et en même temps, bah, si tu sais pas que ça existe, tout petit peu de ça, que ce soit un petit peu de sexualité tantrique, un petit peu de slow sex, un petit peu de sexualité coquine, si tu sais pas que c'est là, que c'est une option, bah, voilà, tu vas pas être appelé, tu vas pas avoir envie de pimenter, de faire évoluer petit à petit, etc. Parce que, voilà, moi, pour moi, c'est ce qui était important dans cette émission, c'était, bon, déjà, te rendre compte qu'il y a un champ des possibles, et je t'ai pas partagé tout ce qui était possible et imaginable dans la sexualité. Il y a bien d'autres choses qui sont explorables, on va dire, qui sont à créer, qui sont à découvrir. Mais donc, sortir de cette pensée noir et blanc de je suis libertin, je suis pas libertin, je suis exclusif, je suis pas exclusif, moi je fais l'amour comme ça et ça c'est pas pour moi. Ok, peut-être, c'est comme le bon plat, t'as pas essayé, tu sais pas, et peut-être que ce truc-là, pour prendre un exemple concret, peut-être qu'il y a des formes de pénétration que tu n'aimerais pas recevoir, et peut-être que jouer avec un doigt, peut-être que c'est ok, peut-être que jouer avec un sextoy, c'est ok, peut-être que jouer avec une langue, c'est ok, tu vois, des choses de cet ordre-là qui sont. Voilà, on n'est pas dans le noir et blanc du je peux pas, je veux pas, c'est pas possible. Et en même temps, c'est aussi ok si jamais tu en es là, si jamais c'est ta réalité, si jamais c'est ton ressenti que telle pratique, c'est pas possible pour toi, il n'y a pas de problème, il n'y a vraiment pas de problème là-dessus. Si c'est juste un blocage mental et de jugement alors que ton corps il dirait oui, j'adore ça, c'est là où pour moi c'est intéressant de se poser des questions, d'explorer tout doucement, en sécurité, avec des partenaires que tu rencontres qui ont plus d'expérience, avec ton ou ta chérie, dans un cadre d'un stage pour le slow sex, par exemple, ou le tantra, ou une sexualité tantrique, ce genre de choses, où tu vas pouvoir, à travers des mises en situation, à travers des expériences peut-être sans pénétration, souvent, il y a sûrement des stages où tu vas aller vers du slow sex, ou d'autres choses où il y a des pénétrations, mais souvent, c'est fait justement sans pénétration pour qu'il y ait un cadre propre, pour qu'il y ait un cadre, pas propre, parce que c'est sale, mais juste clair, quoi, un cadre éthique, on va dire, dans ces pratiques-là, dans ces explorations-là, et après, dans ta vie privée, dans ta sphère intime, tu iras avec ton ou ta chérie, un partenaire que tu trouves, hors du cadre du stage, tu vas pouvoir aller plus loin et faire ces pratiques-là et les expérimenter toi-même. Mais c'est important peut-être d'avoir ces espaces-là d'expérimentation, que ce soit en cadre, ailleurs, en club. Il y a des soirées découvertes de BDSM dans certains clubs, tu verras, ou d'échangisme, ou ce genre de choses, où c'est vraiment fait pour les débutants, ceux qui veulent simplement découvrir, quoi. Il y a des gens qui ont expérimenté, souvent il y a un facilitateur, il y a quelqu'un qui va être là pour s'assurer du cadre, etc. Donc ça peut être une belle manière de faire ça. Tu vois, comme je te disais tout à l'heure, tu peux vivre une sexualité ordinaire et de temps en temps aller vers une sexualité tantrique et d'autres fois aller vers une sexualité coquine. Tu peux vivre une sexualité coquine à fond, t'es à fond dans le BDSM, dans le truc, et à un moment donné, tu te dis, bah, ça fait quoi si vraiment je ralentis, quoi? Si j'arrête de surenchérir. Moi, j'ai rencontré des gens, j'ai discuté une fois avec un homme qui avait, je sais pas, 20 ou 30 ans d'aller en club, de faire des trucs. Le mec, il avait tout essayé, quoi. Il disait, à part la mère et sa fille, en même temps, j'ai tout fait, quoi. En gros, c'était plus ou moins le seul truc qu'il n'avait pas essayé. Tout ce que tu peux imaginer, du 2, du 3, du 4, du 10, des outils, des poings, des doigts, des langues, des sexes, des machins, il avait tout essayé. Tu vois, donc à un moment donné, le risque de certaines sexualités, comme la sexualité par exemple que j'ai décrit comme coquine, c'est la surenchère, c'est aller toujours plus. Bon, on l'a fait à 3, maintenant on va le faire à 4, ou on va le faire tout le temps à 3, ou on va le faire, on va plus souvent aller en club, on va utiliser plus de sextoys, des sextoys plus gros, ou des fouets qui font. Tu vois, un peu cette surenchère du bah, j'ai atteint ce niveau-là, je peux aller au niveau du dessus. Et c'est pas toujours dans la sexualité, c'est pas toujours la solution. Des fois, la solution, c'est le slow sex. Des fois, la voie, c'est la sexualité plus sacrée qui va ralentir, qui va te demander moins. Pour ressentir plus, des fois, il faut aller moins vite, il faut aller moins intense. Et tu verras que, et c'est pour ça qu'elle fonctionne, cette sexualité, slow sex, tantrique, etc. qu'elles attirent autant de personnes, c'est notamment que des fois, le moins amène du plus, entre guillemets. C'est-à-dire que le moins de stimulation, le moins de va-et-vient, le moins de mouvement, avec une pénétration par exemple, des fois, ça amène beaucoup plus de jouissance. Peut-être d'orgasme aussi, mais des fois beaucoup plus de jouissance. Alors que tu as l'air de faire du moins, alors que tu as l'air de faire du moins intense, moins rapide, moins, etc. Et voilà, c'est des choses qui sont intéressantes, donc c'est à explorer, c'est à se rendre compte de, voilà, il y a différentes manières de faire. Et ben, qu'est-ce qui te questionne, toi? Qu'est-ce qui t'intéresse? Qu'est-ce qui te dit, ben, ça, en fait, si j'avais quelqu'un avec qui te partager, ce serait cool. Si mon ma chérie, peut-être que je leur offre le bouquin, peut-être que moi d'abord je le lis moi, et après on en parle, et puis après ils le lisent, tu vois, ce genre de truc, quoi. C'est souvent important qu'on soit les deux soient un peu sur la même longueur d'onde, qu'il y ait une curiosité au niveau des deux à ce niveau-là. Moi, je voulais te parler de sexualité parce que je trouve que, déjà, ça permet de comprendre ce qui est possible de vivre. Encore une fois, c'est pas exhaustif, mais déjà, ça permet de peut-être d'élargir un peu pour ceux qui sont pas très curieux de la sexualité. Si tu es très curieux de la sexualité, peut-être que tu n'as rien appris aujourd'hui, et tant mieux, ça veut dire que tu es très curieux et tu vas apprendre d'autres choses. Si toi, tu fais juste l'amour avec ton ou ta chérie, tu t'es jamais trop posé de questions et tu as entendu parler de tous ces trucs à côté, tu sais pas trop à quoi ça correspond, mais j'espère que ça t'a aidé un peu pour, bah, pour se questionner, simplement se demander bah, qu'est-ce qui est juste pour moi, qu'est-ce qui me donne envie, qu'est-ce qui pimenterait un peu, s'il y a de la lassitude, si de la curiosité, peu importe en fait. Et puis pour ceux qui ont un peu une honte aussi en eux, qui n'osent pas écouter cette voix intérieure, quoi. Ils ont envie d'aller voir vers le coquin, ils ont envie d'aller voir vers le tantra, ils ont envie d'aller voir vers le slow sex, mais il y a une part d'eux qui a honte, c'est pas bien, le désir, la sexualité, c'est pas bien, quoi. On est dans une sexualité, dans une société, pardon, où c'est pas toujours bien ces choses-là, donc. Peut-être libérer un peu à ce niveau-là aussi, c'est dire bah, c'est possible, il y a des cadres pour le faire de manière safe, pour le faire de manière sécure, pour faire des initiations, des découvertes, et c'est très bien aussi d'aller vers ça, si c'est ça qui est là pour toi, si c'est ce que tu as envie de vivre. Je voulais parler de sexualité aussi parce que bah, pour certaines personnes, c'est clair la sexualité qu'elles veulent vivre. Tu vois, moi, j'ai une de mes mentors, une de nos profs de tantra, tu vois, elle a lu le livre que je suis en train de lire là quand elle avait 20 ans, ou je sais plus quel âge elle avait, elle était jeune, et elle s'est dit, bah, c'est ça que j'ai envie de vivre, quoi. Donc, tu vois, le fait de le découvrir jeune dans sa vie, ça a pris du temps de pouvoir le vivre pleinement, de comprendre vraiment ce que ça voulait dire, cette sexualité un peu slow sex, un peu sacrée, un peu divine, de vraiment avoir un corps qui est prêt, trouver des partenaires qui sont prêts à vivre, c'est pas des choses qui prennent 15 jours, hein. Ça peut prendre des mois, des années de vie, quoi. C'est vraiment réapprendre à penser, à faire sa sexualité, à faire enfin, à être avec des partenaires différents, etc. Ça implique vraiment des choses comme ça, quoi. Enfin, je dis pas différents dans le sens pas en avoir plusieurs, mais juste des personnes qui ont un même rapport à la sexualité que toi, en fait. C'est des choses qui t'intéressent, donc. Comprendre qu'il y en a, voilà, en entendant ce podcast-là ou en lisant un de ces livres, un livre que je t'ai mentionné, tu vas tout de suite être très clair sur ce que tu as envie de vivre, en fait. Tu vas être là, ouais, c'est ça, quoi, c'est vraiment ça, ça me donne tellement envie, ça m'inspire tellement, c'est comme ça que je vois la sexualité, c'est comme ça que j'ai envie de me ressentir dans mon corps et tout. Et pour d'autres, pas du tout. Pour d'autres, ça va être, je sais pas, en fait, je sais pas du tout, ça va être de l'exploration, des essais-erreurs. Alors prends un peu tout, regarde, ok, sexualité traditionnelle, t'as connu un peu, ou ordinaire, on va dire, t'as connu un peu, qu'est-ce qui te plaît, qu'est-ce qui te plaît pas. Si tu discutes avec ton meilleur pote ou avec ta copine qui fait du BDSM ou des trucs comme ça, bah, qu'est-ce qui t'intéresse, comment tu peux explorer, peut-être qu'ils peuvent t'amener en club, etc. Peut-être que tu peux trouver un bouquin d'abord sur le sujet, voir des vidéos de personnes qui vivent, etc. Mais il y a une petite curiosité sur le polyamour, bah, il y a des polyamoureux sur YouTube, sur les podcasts, qu'est-ce qu'ils en disent du polyamour? C'est fait pour qui? C'est quoi leur expérience? C'est quoi les problèmes, les challenges du polyamour? C'est quoi les choses super? Et tu vois, et tu vas construire petit à petit, tu vas aller explorer ces choses-là. Et tu vas pouvoir, avec tes expériences, tu vas pouvoir commencer à te dire, bah voilà, là c'est mes limites, là ça je veux pas trop, ça je veux bien. Et voilà, essai, erreur, exploration, s'exploration, courage. Que tu saches clairement là où tu veux aller, que tu saches pas et que tu vas devoir avancer à tâtons, bah, pour moi c'est important d'en parler dans tous les cas en fait. Et avant de te laisser, bah, te rappeler, re-rappeler, pour peut-être la troisième fois de ce podcast, que il n'y a pas une sexualité qui est mieux que les autres. Y a pas, c'est pas une hiérarchie, il faut pas aller de, je sais pas, parce que j'ai mis l'ordinaire en premier que c'est la moins bien, et que j'ai mis je sais plus laquelle j'ai mis en dernier, mais la dernière, voilà, y a pas de hiérarchie, quoi. C'est qui tu es, ce que tu aimes, avec qui tu es, ou elle aime, ce qui est mieux pour vous, ce qui vous fait envie, ce qui vous fait plaisir d'explorer. Peut-être qu'il y a des fantasmes en commun, peut-être qu'il y a des fantasmes pas en commun, il y a des incapacités, des impossibilités dans cette relation-là. Tu vas pas explorer ces choses-là, tu vas explorer d'autres choses. Tu vas explorer la frustration de ne pas pouvoir réaliser certains fantasmes. Ça fait aussi partie de la vie sexuelle. On va pas tout faire, on va pas tout réaliser, tout ce qu'on veut tout le temps. Et du coup, il y a aussi cette côté-là de vivre avec le réel, de ce qu'on n'arrivera pas à vivre, de ce qu'on n'a pas vécu comme on voulait le vivre, etc. Et peut-être qu'il y a des choses que tu pourras réaliser, c'est très bien aussi. Donc c'est réellement OK d'être en paix, c'est aussi pour ça que je voulais parler de sexualité encore une fois, c'est d'être en paix avec sa sexualité à soi, quoi. C'est voilà, accueillir ses envies, ses pratiques, ses rêves, ses fantasmes. On n'est pas responsable de nos fantasmes, on n'est pas responsable de ce qu'on aime sexuellement, entre guillemets. On est responsable de ce qu'on en fait, s'il y a des choses qui restent malgré tout illégales, hein, dans notre société. Donc on est quand même responsable de ce qu'on en fait, des actes qu'on met, des actes qu'on fait. Par contre, on n'est pas responsable de nos fantasmes, on n'est pas responsable de nos désirs, de nos choses comme ça. Et du coup, voilà, un peu libérer des choses à ce niveau-là, quoi, de se dire bah, c'est OK d'avoir des envies comme ça, d'avoir des pensées comme ça. Et voilà, tant que c'est dans le cadre de la loi, tant que c'est fait avec des personnes consentantes, il n'y a pas de problème d'explorer ça en fait. C'est tout à fait OK d'explorer ça. Et il y a sûrement des personnes qui ont les mêmes envies, les mêmes désirs. Que ce soit un plan à trois, que ce soit aller du côté du BDSM, que ce soit jouer avec faire du shibari, que ce soit jouer avec, voilà, j'en sais rien, avec, mettre des fessées, peu importe en fait, peu importe. Mais il y a des gens qui aiment ces pratiques-là et qui vont pouvoir, ou du slow sex, ou du tantra, ce genre de choses, des gens qui aiment ça et qui vont vouloir partager ça avec toi, et ça peut être intéressant de libérer la parole et l'esprit à ce niveau-là. En tout cas, ça l'est pour moi. Je te souhaite beaucoup de plaisir, je te souhaite beaux moments de connexion, beaucoup d'amour dans cette exploration, si jamais tu te lances sur une exploration de la sexualité ou que tu continues la tienne. Et comme toujours, si tu veux soutenir cette émission, bah, tu peux mettre un commentaire, tu peux mettre une note, une review, on appelle ça. Tu peux t'abonner et tu peux aussi le partager. Et c'est la rentrée, donc j'ai quelques places pour ce que j'appelle donc le développement relationnel, donc tout ce qui touche au couple, tout ce qui touche à la communication, à la sexualité, aux problématiques qui est en couple. Donc si tu as un élan, si tu as une envie de transformer des choses, de changer des choses, de faire évoluer des choses dans ton couple, et que tu as la direction, mais que tu n'as pas vraiment le comment on va y arriver, c'est compliqué, ou on a essayé, on n'y arrive pas, l'accompagnement, il est parfait pour ça. Moi, j'ai envie de soutenir, d'accompagner des gens qui ont un élan, qui veulent transformer leur relation, qui veulent faire évoluer leur relation, qui veulent transcender leurs problèmes, qui veulent transcender ouais, ce qui va pas, ce qui ne satisfait pas aujourd'hui, qui veulent aller vers quelque chose de plus ajusté, qui leur va mieux, qui leur vont mieux. Donc si jamais ça t'intéresse et si jamais ça te parle, n'hésite pas à me contacter. Et tu vas sur grainesdecoeur.fr, tu regardes tout simplement l'onglet accompagnement, il y a les modalités, il y a un témoignage ou deux des personnes que j'ai accompagnées déjà. Et il y a les tarifs, il y a tout, et tu peux me contacter avec le formulaire de contact, tout simplement, m'expliquer un peu la situation. Le processus, il est simple. On fait un premier entretien pour faire un petit point sur qui tu es, ce que tu veux, enfin, ce qui est là pour toi au niveau de ton couple, au niveau de ce que tu veux faire évoluer, ce que tu veux transformer, entre guillemets. Soit toi tout seul, ou toi et ta compagne, ou toi et ton compagnon. Et si je pense que je peux t'accompagner, si toi, tu as toujours envie d'être accompagné, ben après, on se lance dans le processus d'accompagnement, tout simplement. Donc si ça te parle, n'hésite pas à me contacter. En tout cas, je te souhaite une super semaine. Je te dis à bientôt. Ciao.